J'adorerais pouvoir parler de l'amour comme d'une sphère à part, une oasis, un sanctuaire. Mais je bute de plus en plus sur un obstacle. Qu'il s'agisse de situations d'oppression révoltantes ou d'incompréhensions certes pas tragiques, mais terriblement frustrantes, tout un arc de situations diverses observées dans la société, dans mon entourage ou dans ma propre vie font grandir en moi l'envie de prendre à bras le corps le sujet de l'amour hétérosexuel. Mona Chollet, ce soir notre invitée, à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, ce sera Étienne Dao, ouverture.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible. Porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Porté par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous, dans l'épaisse fumée, le monde me bouscule. Réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule. Mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible, où la pudeur du cœur impose le respect et la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres.
Que vous est-il arrivé à l'âge de 13 ans dans le collège où vous étiez, Mona Chollet ?
Ah, il m'est arrivé que trois garçons qui devaient être une classe au-dessus ou deux m'ont traîné dans le couloir en disant qu'ils allaient me violer dans les toilettes sur, je sais pas, une dizaine de mètres comme ça, et je me rappelle que dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, j'avais une espèce de répulsion quand je voyais le pull que je portais ce jour-là sur le rayon de mon placard. Et je crois que je ne l'ai plus jamais remis, ce pull.
Et vous avez pu en parler à vos parents ou à vos camarades ?
Non, à l'époque, j'en ai parlé à personne. Et je crois que, oui, comme les quelques autres expériences dont je me souviens, qui sont terriblement banales, hein, que la plupart des femmes, je pense, malheureusement, ont connues aussi. Non, je crois. En plus, à l'époque, j'étais très, pendant même assez longtemps, j'avais pas du tout. J'avais honte en fait, et j'avais pas du tout l'idée que c'était injuste, que c'était pas normal, que ça m'arrive. Je crois que je me disais simplement qu'il fallait que je me protège, qu'il fallait que je fasse plus attention. Voilà, j'avais pas. Non, alors j'étais à mille lieues d'une lecture féministe de ce qui m'était arrivé. Ouais.
Quel type d'éducation avez-vous reçu ? Féministe ? Votre mère était pour les droits des femmes ? Ou c'est l'apprentissage de votre propre vie qui vous a permis de vous éveiller au féminisme ?
Je crois que ça n'a jamais été vraiment formulé. De toute façon, c'était une époque, moi j'étais ado à la fin des années 80, milieu fin des années 80. Le féminisme était à peu près absent à cette époque-là, c'était pas du tout dans l'air.
C'est très important ce que vous dites là. Parce que c'était presque une honte de se réclamer féministe à l'époque.
Oui, c'était très incongru. C'était...
Personne ne se réclamait féministe.
Non, quasiment personne.
Mais sauf aux États-Unis.
Oui, probablement. Oui, c'est vrai que je me souviens du livre de Suzanne Faludi, Backlash, qui est sorti en 90, qui a été un peu, pour moi, la première lecture de prise de conscience féministe. Ouais.
C'est comme si on avait enterré le premier féminisme, celui du début des années 70.
Oui,
c'était pas la mode.
Non, et ça a été même délibéré. Enfin, c'est justement ce que Suzanne Faludi montrait dans ce livre-là, c'est-à-dire comment il y avait vraiment eu une stratégie de contre-offensive conservatrice dans les médias pour présenter les féministes comme des ringardes frustrées, malheureuses,
mal baisées.
Ouais, qui avait soi-disant gagné l'égalité et soi-disant était maintenant malheureuse et seule, voilà.
Et comment s'est éveillée en vous cette perception de la fierté d'être une fille et non plus de la honte ?
De manière très très progressive, très chaotique, je pense. Finalement, j'ai l'impression que récemment encore, j'ai découvert des concepts qui ont été, enfin, il y a plein de, c'est drôle parce que j'ai aussi l'impression d'être beaucoup éduquée par les jeunes féministes en fait, notamment à travers les réseaux sociaux, elles me font prendre conscience de beaucoup de choses dont moi auxquelles j'avais jamais réfléchi.
Vous êtes pas vieille, hein, mais c'est très important aussi ce que vous dites là, c'est-à-dire que la jeune garde des féministes d'aujourd'hui, celle qui intervient justement sur les réseaux sociaux et qui porte une certaine radicalité font bouger le mouvement aujourd'hui.
Oui, énormément, énormément. Et c'est vrai que je regrette un peu parce que je me dis que j'aurais gagné beaucoup de temps à connaître des concepts qui m'auraient permis de mettre les mots sur ce que je vivais.
Comme lesquels, par exemple ?
Plein de choses. Je sais pas, le harcèlement de rue, c'est un concept que j'ai découvert très tard, enfin que j'ai compris très tard.
Parce que vous y étiez habituée, comme nous toutes, et vous n'y pensiez même pas que ça pouvait être un type de harcèlement.
Non, pas du tout. Le mansplaining aussi, je crois que c'est donc le fait qu'un homme vous explique la vie sur des sujets que vous connaissez au moins aussi bien que lui. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'aurait été très utile. Donc c'est très... J'aime bien, enfin je suis toujours très contente quand je découvre un nouveau concept. Et après, bon, je me dis qu'il n'y a pas de regret à avoir parce que les parcours se font, même si c'est de manière un peu, ça se fait un peu cas en cas, comme ça. Bon, c'est aussi intéressant de faire ce trajet, justement. C'est-à-dire de partir d'un point d'espèce d'analphabétisme féministe et voilà, de peu à peu d'intégrer, de comprendre et de progresser, quoi.
Analphabétisme. Vous voyez, nous, les femmes, on est toujours en train de se sous-estimer. Vous, je rappelle, Mona Chollet, que vous êtes en quelque sorte le porte-voix de toute une génération de jeunes féministes grâce à vos ouvrages. Vous avez d'ailleurs commencé par analyser la beauté, les injonctions faites au visage, au corps, aux apparences des femmes. Puis vous avez continué de manière plus historique, plus anthropologique, plus comparatiste, avec cet ouvrage qui vous a fait connaître d'un très large public, avec votre merveilleux livre sur les sorcières. Et vous avez expliqué la puissance justement des sorcières, c'est-à-dire la puissance du féminin qui a été sans arrêt mis sous le boisseau depuis depuis le haut Moyen-Âge, justement pour dangerosité, car les femmes ont toujours été porteuses de secrets, de possibilités de comprendre le rapport à la vie différent de celui des hommes. Et puis, vous débarquez avec ce nouveau livre. Et là aussi, deux singularités à l'intérieur de votre parcours. D'abord, vous parlez de vous, de manière modeste, avec vos propres doutes, vos propres questionnements, et puis vous parlez de l'amour. Alors d'abord, parlons de vous. Vous parlez de vous parce que c'est plus cash avec vos lectrices et vos lecteurs de parler de votre propre rapport au monde.
Oui, et puis parce que j'ai l'impression que c'est ma seule légitimité aussi, c'est-à-dire que je suis journaliste de formation, je suis pas entrepreneur.
Voyez, vous parlez encore de votre absence de légitimité.
Non, parce que finalement, je pense que je l'ai conquise cette légitimité, c'est-à-dire le fait de, et j'aime bien en fait cette démarche. Enfin, je m'y suis habituée et je la revendique maintenant, c'est-à-dire le fait que je pars vraiment des questions qui se posent à moi dans un moment de ma vie. Et que je décide que je vais essayer de les résoudre et de trouver un écho, des réponses dans mes lectures et d'emmener des lectrices et éventuellement des lecteurs dans ce cheminement avec moi. Et donc c'est pour ça que je parle de moi, parce que c'est comme des jalons en fait, c'est pour expliquer pourquoi un sujet me préoccupe, pourquoi je me lance dans cette quête intellectuelle de réponses. Voilà, donc c'est une manière de proposer un chemin, quoi. Enfin...
Alors justement, c'est ça qui est très passionnant à l'intérieur de votre méthode, entre guillemets, Mona Chollet, c'est que c'est un cheminement, c'est pas la proclamation d'une idéologie, c'est pas le militantisme aveugle. Non, c'est une introduction à soi-même et à la possibilité de comprendre ce qui m'arrive, ce qui nous arrive.
Oui, et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce processus d'écriture, c'est que on pourrait croire en fait à première vue que le fait de se retrouver un peu ailleurs que là où on avait prévu d'aller, d'avoir des surprises en cours d'écriture, on pourrait croire que c'est réservé à la fiction. Et en fait, je trouve que c'est totalement le cas aussi dans les essais, c'est-à-dire au départ, j'ai quelques pistes, j'ai quelques idées, j'ai quelques premières lectures, mais en fait, ce que j'aime, c'est la découverte et les surprises en cours d'écriture. Et du coup, je me sens complètement... j'ai l'impression d'être tout à fait différente une fois que j'ai fini d'écrire. J'ai l'impression que le processus m'a vraiment transformée, en fait. Et j'aime beaucoup cette sensation.
Dans le mode d'écriture aussi, vous nous permettez, à nous lectrices et lecteurs, de nous introduire dans votre parcours. C'est-à-dire, il se passe une évolution, une transformation. Vous n'êtes pas la même quand vous avez commencé le livre que quand vous l'avez terminé. Et ce parcours, cette émotion... De rencontres avec des textes ou avec des situations permet aussi une modification.
Oui, c'est ce que j'espère. Oui. C'est vrai que sur le moment, il y a une espèce de grande excitation dans l'écriture, quoi. Il y a une espèce d'impatience de partager tout ça avec les personnes qui me liront. Donc évidemment, j'espère que ça produise le même effet sur mes lectrices et mes lecteurs après, oui.
Seconde singularité chez vous, Mona Chollet, l'amour. Mais l'amour hétérosexuel.
Oui, parce que c'est celui avec lequel je suis aux prises moi. Donc j'ai fait le pari d'essayer de mettre de l'ordre dans mes idées à ce sujet et du coup de partager ça avec toutes les personnes que ça peut intéresser. Il y a toujours une sorte de processus d'inventaire pour moi dans mes livres, c'est-à-dire de réaliser que j'ai hérité comme ça d'idées de peut-être de préjugés aussi, de valeurs, qui sont largement liées au fait que j'ai été éduquée et socialisée comme une femme. Et à partir de là, il y a toujours cette confusion entre ce que je peux revendiquer là-dedans et ce qui me paraît nocif et problématique. Et donc j'essaye de faire le tri en écrivant, en fait, et de mieux comprendre. J'ai envie à la fois de dépasser une forme d'aliénation, parce que c'est un mot qui revient beaucoup dans mes livres, et j'ai l'impression que c'est vraiment une réalité qui est due à l'éducation qu'on reçoit en tant que femme, et en même temps aussi j'ai pas envie non plus d'être dans un rejet du féminin en tant que tel, et je pense qu'il y a des choses malgré tout intéressante dans ce qu'on se transmet d'une génération à l'autre, d'une génération de femmes à l'autre, et des choses qui sont comme des valeurs un peu contre-culturelles d'une certaine manière, qui sont pas les valeurs dominantes de la société, mais qui me paraissent valables et dignes d'être défendues en fait.
Quand avez-vous été amoureuse la première fois ?
Ouf, vraiment très tôt, je crois. Non, j'ai des souvenirs vraiment, je sais pas, je devais avoir, je pense que j'étais à la maternelle, en fait. J'ai pas, j'ai une image comme ça d'un garçon plus âgé qui était dans une autre salle de classe. C'est très flou en même temps. Mais je me rappelle que je restais plantée dans le couloir à contempler ce garçon.
Mais il était peut-être amoureux de vous aussi.
Oh, non, vous savez, les...
Vous n'avez pas déclaré votre flamme.
Non, parce que c'était un garçon. Les grands ne regardent pas tellement les petites, je crois, malheureusement. C'était un grand, mon premier grand déchirement amoureux, je pense.
Êtes-vous souvent tombée amoureuse?
Ou, je sais pas, qu'est-ce que vous appelez souvent?
Ben, je sais pas. Mille traits, comme dans Don Giovanni, mille trois fois, ou dix fois, ou quinze fois?
Non, plutôt dix fois, non. Je crois que je suis plutôt du genre lente et obsessionnelle. Donc, quand ça tombe sur quelqu'un, ça dure, en fait.
À l'intérieur de ce livre qui vient de sortir, Réinventer l'amour, vous nous dites à l'oreille que vous vivez une expérience assez extraordinaire. Et d'ailleurs, je la trouve extraordinaire. Vous avez vécu longtemps avec un amoureux, vous vous êtes séparés, et finalement, après la séparation, vous avez réussi à construire une relation qui perdure encore aujourd'hui et qui est très importante pour vous, manifestement, mais aussi pour l'ancien compagnon.
Oui, j'ai toujours une espèce de superstition quand j'en parle, j'ai peur que... que du coup on se dispute terriblement et que ce soit fini, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très, je trouve très intéressant de voir comment la fin de la vie de couple n'est pas forcément la fin de l'amour, parce qu'il reste une forme d'amour. Je peux pas dire qu'on est, j'aime pas du tout l'expression rester amis, parce que ça n'a vraiment pas de sens. C'est pas non plus comme un lien du sang, donc c'est un lien vraiment à part, en fait, c'est-à-dire qui est fait de tout ce qu'on a vécu ensemble, de la complicité qu'on a eue. Alors après, c'est, évidemment, il y a eu une phase, tout n'a pas été sans heurts, et voilà, il y a eu une longue phase très douloureuse après la séparation, mais on s'est retrouvés ensuite, et je suis très heureuse aussi qu'on ait toujours accès, en fait, à ce qu'on a vécu ensemble, qu'on puisse simplement se dire, ah bah, tu te rappelles telle situation, telle personne, enfin. Après, c'est pas toujours possible, évidemment. Parfois, la cassure est nécessaire aussi. Et, voilà, quand les relations se passent pas bien, se terminent pas bien, je pense que ça peut être aussi très bien de partir sans regret et sans regard en arrière. Mais quand c'est possible et que les deux en ont envie, je trouve que c'est vraiment précieux de pouvoir continuer l'histoire autrement, en fait.
De l'amour, vous parlez beaucoup. Vous parlez aussi bien de séries, vous parlez de cinéma, vous parlez de littérature. Et à propos de la littérature, qui regorge d'histoires d'amour, vous citez beaucoup Albert Cohen. Nous sommes nombreux et nombreux à avoir commencé peut-être notre éducation sentimentale en lisant Belle du Seigneur. Je vous propose d'écouter la voix d'Albert Cohen à propos de l'amour vrai, ce sont ses termes, au moment de la publication de Belle du Seigneur. C'est une archivina de 1968, la voix d'Albert Cohen.
L'amour vrai, et cet amour vrai, ce n'est pas un amour uniquement axé sur la chair. L'amour vrai, c'est en fin de compte l'amour nuptial, c'est-à-dire deux êtres qui ne sont pas uniquement réunis par les délices si vite épuisées de l'union physique, mais par un but commun, que ce but commun soit l'enfant, ou qu'il soit une œuvre à accomplir, aussi modeste, aussi humble puisse-t-elle être. Bref, pour moi, l'amour est celui de deux êtres qui se réjouissent de vieillir ensemble, entre autres.
Alors voilà une belle définition de l'amour. Je ne sais pas si vous y souscrivez, Mona Chollet. Est-ce que le véritable amour, c'est pas la chair d'abord? Première question.
J'ai l'impression de retrouver dans cet extrait l'espèce de... Il y a quand même une énorme répulsion pour le corps et pour la chair, dans Belle du Seigneur en particulier. Enfin, Solal exprime très souvent ça, en fait, le mépris du corps, le fait que le corps est menteur,
et
répugnant, honteux... Quand il est allongé près d'une de ses maîtresses après l'amour, il dit qu'il a honte, qu'il aimerait bien qu'elles arrêtent de lui parler. Pour
et ne parlons pas des épisodes quand il faut aller aux toilettes et qu'il faut pas entendre.
Ah oui. Ah oui, il y a le corps sexuel et le corps physiologique, et il y a la même obsession et la même répulsion. Ouais. Oui, j'ai voulu en parler quand même. Et puis. Oui, pour moi, c'est vraiment un livre sur lequel j'arrête pas de revenir, parce que j'ai été Bon, là, il a cette écriture extraordinaire qui, moi, m'a complètement éblouie, comme beaucoup d'autres gens à la lecture. Mais après, c'est vrai que j'arrête pas de revenir, en fait, depuis que je l'ai lu sur ce roman. Et de plus en plus, j'en viens à voir tout ce qu'il a de problématique. Et c'est vrai qu'en faisant mes recherches pour ce livre, je suis aussi tombée sur d'autres extraits d'interviews d'Albert Cohen avec Jacques Chancel qui m'ont totalement épouvantée, où il dit qu'il faut qu'il y ait des rapports de féodalité entre les hommes et les femmes, où il parle de Marguerite Yourcenar en termes atroces, en disant qu'il a jamais rien lu d'elle parce qu'elle est trop grosse, et qu'en plus elle aime les femmes et qu'il trouve ça lui déplaît beaucoup. Oh, je suis vraiment tombée de ma chaise. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une sorte d'immense malentendu chez toutes les femmes qui ont, comme moi, qui ont adoré Belle du Seigneur et qui, en fait, se sont probablement quand même laissé prendre à une vision très rétrograde, très misogyne de l'amour, en fait.
Alors ça, c'est une démonstration passionnante de votre nouveau livre, Réinventer l'amour. C'est que vous nous démontrez comment nous sommes toutes fabriquées, et les garçons aussi, tous fabriqués par des idées de l'amour qui sont véhiculées dans la société absolument tout le temps. Ouais. Et qu'un des modèles d'identification finalement principal, c'est la littérature. Donc l'amour est-il une construction? L'amour est-il une réalité? L'amour est-il un fantasme? Ou les trois à la fois, Mona Chollet?
Tout ça à la fois, je pense, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est les chansons. C'est ce que tout le monde dit toute la journée autour de nous, les petites phrases qu'on prononce sans y penser, les commentaires qu'on fait sur la vie amoureuse des autres, sur les jugements qu'on porte. Enfin, on est toutes et tous façonnés par tout cet environnement culturel. Et c'est vrai que souvent, ce que j'avais envie de rendre évident, c'est à quel point on a un idéal amoureux qui est façonné, qui est fondé en fait sur une forme d'infériorité des femmes qui est vue comme quelque chose de désirable et de sublime. Et
sur l'apparence, sur notre apparence uniquement.
Oui, l'apparence et puis le statut, c'est-à-dire que le couple idéal, c'est celui où l'homme domine en fait un peu dans tous les domaines, que ce soit qui domine par la taille physique, par le statut social, par l'âge, hein, c'est très important l'âge. Oui, enfin, je cite par exemple ce titre du New York Times il y a quelques années où il y avait un article qui disait que va devenir l'amour romantique à une époque d'émancipation des femmes. Et il me semblait que c'était un tel aveu, enfin, c'est-à-dire de finalement sur quoi repose le romantisme.
Mais ça va même plus loin aux États-Unis, puisqu'il y a des ligues d'hommes qui se sont construites au moment de MeToo et qui ont peur de la perte de leur virilité.
Oui,
comme si une femme accomplie ou qui est sujet fait peur à l'espèce masculine, entre guillemets.
Oui, oui, aux États-Unis et en France. Hein, je rappelle que Éric Zemmour a quand même écrit il y a quelques années Le Premier Sexe. C'est quand même pas anodin qu'une personnalité qui est partout aujourd'hui se distingue à la fois par son racisme et par sa misogynie.
Et vous avez vu la réponse qu'il a faite aussi la semaine dernière à Léa Salamé quand elle lui a demandé s'il y aurait des femmes dans son hypothétique gouvernement.
Ah non, j'ai pas suivi ça.
Bah, il a répondu tout simplement que quand il y a des femmes, on avait observé dans la société une dévalorisation du statut, du métier et des qualités professionnelles.
Non, alors, j'ai même pas envie de commenter.
Parlons de l'enfant. Parce que il en parle, Albert Cohen, dans cette archive. Il dit qu'une des définitions de l'amour, ça peut être de vieillir ensemble, d'avoir un projet ou d'avoir un enfant. Et vous, dans ce nouveau livre, Mona Chollet, vous dites, moi, j'ai décidé de pas avoir d'enfant.
Oui, c'est quelque chose que j'avais déjà développé beaucoup dans, j'y reviens finalement assez peu parce que je l'avais beaucoup développé dans Sorcière, c'est-à-dire, parce que je pense que la femme sans enfant, la femme qui refuse la maternité est une figure de sorcière, même si on met pas toujours ce mot-là précisément sur elle. Et c'est vrai que j'ai voulu au début du livre faire quelques pages assez sincères pour expliquer bah voilà d'où je parlais, quel était mon idéal à moi aussi, parce que je pense que ça permet de se situer, c'est-à-dire quand on lit le livre de se dire bon bah voilà moi c'est pareil, moi je suis comme elle, moi je suis pas comme elle, moi je suis pas d'accord, enfin voilà, je pense que c'est bien d'être assez clair au départ. Et c'est vrai que moi je suis dans cette situation, j'ai jamais eu de désir d'enfant, et je pense que ça et tous les modèles de couples que j'admire le plus sont des modèles de couples qui ont également choisi de pas procréer et qui, du coup, se sont...
Comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, par exemple.
Oui, alors j'ai pas tellement non le couple Sartre et Beauvoir, et je l'ai pas. Enfin, je évidemment que j'ai lu Simone de Beauvoir, mais j'ai pas. C'est pas spécialement. Je pense plutôt à l'écrivain Rezvani et à sa femme Danielle Lula, qui est pour moi un très beau modèle de couple, ou André Gortz et son épouse Dorine, même si c'est des couples. Évidemment assez classique, dans lesquels l'homme a été le seul à avoir un rôle créateur et une production artistique, intellectuelle, etc. Donc je peux pas m'y reconnaître complètement. Oui, c'est des modèles, des histoires que je trouve très émouvants et très beaux. Ouais.
Cependant, vous inscrivez dans un mouvement du féminisme qui ressemble beaucoup à celui que prenait Simone de Beauvoir, puisque elle explique que pour être une femme accomplie et pouvoir donner lieu à toutes ses potentialités, eh bien, il ne faut pas avoir d'enfant. Mais si je vous ai bien compris, Mona Chollet, vous n'allez pas jusque là.
Non, pas du tout.
Vous dites que c'est votre propre choix, mais vous ne le donnez pas comme une injonction.
Non, absolument pas.
Ce qui a été une des donnes d'un certain féminisme français à un moment, ne pas avoir d'enfant, c'était la voie à suivre.
Mais oui, mais peut-être que c'était nécessaire, et ça l'est toujours aujourd'hui d'une certaine manière, de défendre cette possibilité, parce qu'on est, malgré tout, on est toujours extrêmement minoritaire, les femmes et les personnes en général qui décident de pas avoir d'enfants.
On vous l'a fait remarquer et on continue à vous le
faire remarquer. Oui, c'est arrivé, bien sûr. Il y a des gens que ça dérange, mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai pas, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de, j'en ferai pas du tout un principe, et je vérifie tous les jours que, en tant que femme, j'ai énormément d'avantages dans la société du fait que j'ai pas d'enfants, mais en même temps, j'en tire pas du tout la conclusion qu'il ne faut pas avoir d'enfants.
Vous parlez de la double journée des femmes,
oui,
de la charge mentale,
des pénalités,
et du double emploi
travail,
du temps, triple même,
du regard sur les femmes qui deviennent mères, qui est souvent très condescendant, quoi. C'est-à-dire, il y a une espèce d'admiration très de louange très superficielle, et derrière il y a un mépris infini. Donc moi, je me sens complètement solidaire des femmes qui défendent à la fois leur féminisme et leur maternité. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire pour que la maternité soit plus un tel poids pour les femmes.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Mona Chollet, Clara Isée, Le Monde s'est dédoublé.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié, que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Je pense que l'amour, d'un point de vue en quelque sorte immédiatement presque métaphysique, c'est tout de même l'expérience la plus radicale qui existe de l'autre. Ça, je crois que c'est pas niable. Ça n'est pas niable. Et cette expérience est radicale parce que, d'une certaine manière, dans l'amour, il y a la nécessité et, en un certain sens, le vœu d'accepter que l'intégralité de quelqu'un d'autre soit une figure de votre propre vie. Et de ce point de vue-là, la dialectique amoureuse, c'est une dialectique de l'autre en un sens particulièrement intense. Et si on considère qu'après tout, l'expérience et la dialectique de l'autre est un point essentiel non seulement de la vie, de l'existence, mais aussi, en fin de compte, de la pensée, des positions qu'on peut prendre sur le monde, et à la fin des fins, des prises de parti politiques, etc. Il est certain que l'amour est une sorte d'expérience radicale de cela. C'est pour ça qu'il m'est arrivé de dire que, à mon sens, l'amour, c'était le communisme minimal. Le communisme à deux, voilà. Et j'entendais par là, c'est une image, mais j'entendais par là qu'il est l'expérimentation de ce que c'est que l'humanité tout entière, mais dans la figure de l'acceptation d'un autre.
Nous venons d'entendre Alain Badiou, philosophe, auteur d'une œuvre considérable, mais auteur aussi d'un petit livre qui continue à marcher très bien, qui s'intitule « Éloge de l'amour », c'était en 2007. Et il vient de dire que l'amour, c'est une sorte de dialectique, c'est le communisme primitif. Approuvez-vous ces propos, Mona Chollet? Et je me suis demandé, en écoutant Alain Badiou, par rapport à votre livre, si finalement vous ne prenez pas l'amour comme la dialectique de l'autre, à condition qu'il y ait reconnaissance de l'autre, et non pas disparition de l'autre.
Oui, à condition qu'il y ait égalité, en fait. Je pense que cette idée de communisme à deux, elle est très belle, mais elle est très peu une réalité, enfin très rarement une réalité. Je crois qu'il y a un tel déséquilibre, et en fait, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement, puisque c'est dans le cas de l'amour hétérosexuel, on a affaire à deux personnes qui occupent des positions tout à fait opposé sur dans un système de domination structurelle qui les dépasse, en fait. Que l'homme dans la relation soit très exerce de manière très prononcée cette domination, ou qu'au contraire il essaye de la réduire à son minimum, la domination, il y a quelque chose qui les dépasse tous les deux. La domination est là malgré tout, c'est-à-dire, je trouve très frappant d'observer ça dans le cas des hommes qui sont pro-féministes, qui ont un comportement respectueux, égalitaire, etc. Parce que ils se retrouvent en fait dans une position où ils incarnent une sorte d'homme qui est tellement rare qu'en fait ils se retrouvent à avoir un privilège supplémentaire parce que leur partenaire a intérêt à les garder, d'autant plus. Où ils peuvent susciter la convoitise d'autres femmes. Donc, même dans cette situation-là...
Donc, avis aux hommes, devenez tous féministes parce que vous serez la... Vous
oui,
serez très courtisé par les filles.
C'est étonnant qu'ils n'y pensent pas plus, parce que c'est vrai que c'est un moyen de se rendre très populaire quand c'est réel et sincère et pas juste une posture, ce qui est aussi très souvent le cas. Ouais, je trouve assez frappant de voir comment, en fait, la seule vraie solution, c'est un changement de société, en fait, parce que sinon, même ce qui pourrait apparaître comme un avantage donné aux femmes se retourne en privilège supplémentaire pour l'homme dans le couple, en fait.
Donc, il faut changer de société et abroger le patriarcat. Mais c'est voilà, pas pour demain, c'est... parce qu'il existe depuis l'aube de l'humanité.
Non, mais après, bon, on
mais
lutte
ça bouge.
Contre... Oui, et puis on lutte contre tellement de choses qui existent depuis le début de l'humanité, en fait. La violence, l'oppression, l'exploitation, enfin, tout ça, malheureusement, c'est des choses vieilles comme l'humanité, et c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras devant elles.
De l'amour, Mona Chollet, vous parlez dans ces différentes métamorphoses, dans ces différents états, et aussi de l'intérieur, mais aussi à l'intérieur de notre propre sexualité. Vous parlez, à l'intérieur de ce livre, beaucoup d'Annie Ernaux, et vous parlez d'un livre d'Annie Ernaux qui s'intitule « Passion simple », qui a donné d'ailleurs lieu à une version cinématographique qui est sortie il y a très peu de temps. Je vous propose d'écouter Annie Ernaux à propos justement de son livre « Passion simple ». C'était le 10 juin 2002 et c'était au micro de Geneviève Brisac.
À partir du mois de septembre, je commence comme ça mon livre, à partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai fait qu'attendre un homme. Et c'est ensuite toute l'histoire de ces attentes des rendez-vous d'un homme, tout ce qu'on fait quand on est amoureuse et qui peut apparaître comme, j'allais dire, dérisoire, mais qui en fait, quand on le vit, apparaît comme une chose merveilleuse. Alors, bon, je dis par exemple que dans les journaux, je me jetais sur l'horoscope, que je donnais 10 francs à un mendiant en faisant le vœu pourvu qu'il m'appelle ce soir, que je jetais un peu l'argent par les fenêtres, ce que je ne faisais pas précédemment. Ce sont tous ces signes d'une passion que j'évoque dans ce court livre. Mmh. Je ne pense pas qu'on puisse parler de rêve de midinette ou d'impudeur. J'ai simplement essayé de dire ce qui se passe réellement. Quand on désire un homme, quand on n'attend que ses rendez-vous, et ensuite quand on souffre lorsqu'il est parti. Donc c'est peut-être ce parti pris de dire, de cerner le plus la réalité, sans honte, sans culpabilité, je crois que... Et puis il y a peut-être aussi le fait que les gens ont envie qu'on leur parle de passion.
L'amour fou, donc, que nous raconte magnifiquement Annie Ernaux dans ce livre « Passion simple », mais aussi, et ça c'est une dimension très importante de votre nouveau livre, Mona Chollet, mais aussi la possibilité pour les femmes d'être des sujets désirants, et non pas forcément d'attendre des hommes qu'ils viennent nous chercher ou nous désirer.
Oui, d'être des sujets désirants, je crois que c'est très compliqué toujours. D'ailleurs, Annie Ernaux raconte aussi beaucoup comment elle a été tournée en dérision par des critiques masculins à la sortie de ce livre, comme s'il y avait une espèce de volonté de défendre un monopole masculin dans la description du désir, comme s'il y avait quelque chose d'intolérable dans le fait qu'une femme parle de son désir pour un homme, quelque chose de grotesque, de profondément gênant, alors que bon,
voire obscène,
alors que bon, la littérature est pleine de d'hommes qui décrivent leur désir pour des femmes sans que personne ait jamais jugé ça dérangeant ou grotesque. Donc il y a ça d'un côté, et puis après c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup c'est très touchant ce qu'elle décrit de l'amour, c'est très beau, cette espèce de capacité à la passion, à l'abandon, au don, etc. Mais moi j'y vois aussi beaucoup le problème que j'ai maintenant aussi avec cette dépendance très forte et cette manière d'attendre qu'on inculque beaucoup aux femmes. Et d'ailleurs, elle le dit aussi dans ce livre, comment on le lui a inculqué. C'est-à-dire l'idée d'attendre tout son bonheur, toute son existence et toute son identité d'un homme, en fait. Enfin, je cite aussi dans le livre une psychanalyste américaine qui racontait que certaines de ses patientes lui disaient « Ah, quel dommage que j'ai pas un homme dans ma vie, parce que sinon j'aurais pas besoin de faire une psychanalyse ». Et c'est très parlant, je trouve. C'est-à-dire, et moi, je me rends compte que j'ai mis très longtemps, parce que j'avais ces rêves d'amour très jeunes, en fait.
Vous voulez dire que les femmes, nous sommes incomplètes si nous n'avons pas la présence d'un homme dans notre vie.
Oui, et puis on risque...
Dans l'acception courante de la société contemporaine.
Oui, il y a ça d'une part, c'est-à-dire le fait que, effectivement, socialement, c'est très compliqué d'exister sans être relié à un homme. C'est toujours plus rassurant pour tout le monde autour de vous quand on peut vous relier à un homme. que vous êtes en quelque sorte domestiqué et la propriété de quelqu'un, mais je crois qu'aussi pour notre autonomie personnelle, je crois qu'on risque d'oublier de se construire en tant que personne indépendante avec sa vie, ses centres d'intérêt, ses préoccupations, ses buts personnels en dehors de la rencontre, de la passion et de la famille, etc.
Alors d'un côté, il y a le renouveau du féminisme et il faut s'en féliciter. En cette rentrée éditoriale, il y a plusieurs livres qui traitent de ce sujet majeur de notre société. On s'en félicite aussi, mais de l'autre, il y a les modèles qui continuent à perdurer et à se répéter à l'intérieur de notre société, et particulièrement vis-à-vis des toutes jeunes filles, des jeunes filles, avec les règles du patriarcat et peut-être une absence d'éducation à l'école vis-à-vis des petits garçons, parce que je crois que ça commence très jeune, et vis-à-vis aussi des petites filles. Où en est-on, selon vous, par rapport au désir des femmes, mais en même temps à la répétition du modèle du patriarcat qui continue à fonctionner à plein régime en ce moment?
C'est vrai, mais j'ai beaucoup de mal à apporter un jugement général. Je trouve que c'est très compliqué de savoir comment les choses évoluent. Enfin, après, j'ai pas non plus. Bon, vous allez dire que je me dévalorise encore, mais je suis pas sociologue et j'ai pas l'impression d'avoir les outils pour formuler ce genre d'analyse. Après, moi, ce qui me réjouit, c'est que je me rends compte que les femmes d'aujourd'hui, quel que soit leur âge, si elles se posent des questions, elles ont les moyens de chercher, notamment en ligne. Je trouve que, enfin, pour ça, les Internet est une ressource extraordinaire, quoi, parce qu'on trouve absolument, quelle que soit sa préoccupation, son motif de révolte, on trouve un écho, on trouve des suggestions de lecture, des analyses. Donc il y a une sorte de trésor vraiment à portée de la main de chacune. Rien que ça, c'est un, enfin, évidemment, encore plus quand je compare à la période où moi j'ai grandi. Je trouve que c'est une richesse énorme et ça me donne un immense espoir. C'est-à-dire, voilà, l'idée que peut-être toutes ces ressources, tous ces outils vont permettre, y compris aux hommes aussi d'ailleurs qui voudraient s'y intéresser, peut-être vont permettre de construire des modèles différents et des relations différentes.
Votre livre Mona Chollet se déploie dans plusieurs continents, donne la possibilité d'entendre plusieurs voix féministes. Je vous propose d'écouter une femme écrivaine qui est auteure de Americana et l'Hibiscus pourpre. Une femme puissante, une femme très intelligente, une femme très déterminée, une femme très douée. Elle s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. Elle va parler de l'amour. C'était il y a 2 ans.
But I'm interested in love. I love love.
Bon, l'amour, ça m'intéresse en fait. J'aime l'amour.
You know, I really think that love is the most important thing in life.
L'amour, c'est la chose la plus importante de la vie.
In different ways, not just romantic love.
I think pas simplement l'amour au sens romantique du terme.
I as a person have been greatly nurtured.
Par exemple, moi j'ai été nourrie par l'amour que j'ai reçu de mes amis. J'ai vraiment des femmes, des amis dont je dépends. Leur amour m'est essentiel. Et puis l'amour de la famille. Et puis j'ai aussi par ailleurs une relation amoureuse et un mari absolument charmant. Et puis le grand amour de ma vie, c'est ma fille. Mais l'amour, ça m'intéresse. J'ai lu des romances, alors vraiment terribles. Et cette pauvre femme, toujours, elle est toujours la victime. C'est toujours l'homme qui doit s'intéresser à elle, et elle a fait comme si elle n'avait rien remarqué, si elle n'était pas intéressée. Et finalement, il va aller frapper à sa porte, et finalement, elle va craquer. Et on a cet homme silencieux et fort et costaud. Et je me disais, mais même dans ces romans à l'eau de rose, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, oui, écrire de l'amour, certes, mais d'une manière qui soit authentique, où la femme, elle aussi, peut prendre l'initiative, elle a aussi du désir sexuel, elle choisit, elle aussi, comme les hommes, où la femme n'a pas honte. Et dans beaucoup de cultures, la sexualité et la honte sont vraiment des sujets importants. La femme est censée avoir honte de son corps, honte du désir, honte d'être l'objet du désir aussi. Donc, je voulais revenir sur cela, écrire des histoires d'amour, mais réalistes. où les gens sont là, ils payent leur loyer, ils ont les contingences, ils ont du mal à obtenir un visa, enfin, vraiment les contingences de la vie pratique, parce que ça aussi, ça compte.
Voilà, alors ce mouvement, il s'étend dans le monde entier, Mona Chollet. La fin de votre livre est optimiste, parce que vous dites qu'on va peut-être arriver à faire évoluer la définition même de l'amour et que ce changement de définition de l'amour va sûrement changer les existences.
Oui, je suis très contente d'avoir entendu cet extrait parce que j'avais raté cette interview et c'est vrai que ça me fait penser que Americana est vraiment une très belle histoire d'amour justement, c'est-à-dire où pour moi l'équilibre est assez parfait entre la passion et l'indépendance féminine en fait. Je trouve ce personnage féminin est assez exemplaire pour ça. Et puis c'est un roman qui parle aussi de mille autres choses. Donc oui, je trouve que c'est peut-être le roman d'amour parfait, c'est vrai. J'y avais jamais réfléchi sous cet angle-là, mais c'est vrai. Et oui, bien sûr, je pense que l'évolution de l'état de nos relations amoureuses entre hommes et femmes dépend énormément de la place qu'on donne à la voix des femmes et de l'audace qu'elles auront à parler, à en parler et à ne plus laisser en fait le monopole du discours sur l'amour aux hommes.
Vous n'ignorez pas que la campagne pré-présidentielle a commencé. Avez-vous écouté France Inter ce matin ?
Ah non.
Eh ben c'est dommage parce que l'invité de Nicolas Demorand et de Léa Salamé vous a adressé un message subliminal. Écoutons-la.
Vous dites préférer des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. J'ai pas trop compris.
Mais ça faisait référence au mouvement des sorcières et à l'histoire du féminisme et de l'écoféminisme. Et l'écoféminisme prend sa source dans les luttes environnementales et dans des luttes notamment contre le nucléaire. Et la question que me posait la journaliste était de savoir si finalement jeter des sorts était une manière de lutter socialement contre des projets inutiles. Et je lui répondais que oui, toute forme d'opposition et que ces femmes qui se sont opposées depuis des années à des projets qui étaient non seulement inutiles mais coûteux et dangereux, finalement avaient obtenu des
victoires.
Pourquoi genrer
les choses ? Pourquoi réduire au combat des femmes contre le nucléaire ? Il y a eu des femmes, il y a eu des hommes, non ?
Dans mon équipe, j'ai
les femmes qui envoient des sorts et les hommes qui construisent des nucléaires.
Dans mon équipe, j'ai des femmes ingénieures, j'en ai même qui travaillent au CNES et qui font décoller des fusées. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de la rationalité dans notre monde qui finalement est au cœur de toutes nos réflexions. Et je crois que la transformation écologique doit aussi passer par une forme de réenchantement et de réenchantement de la nature, de retrouver le sens de la nature et de retrouver aussi le sens de l'émotion vis-à-vis de cette nature. Et donc,
mais vous trouvez qu'il y a trop de rationalité, c'est ça ?
Non, il n'y a pas trop de rationalité, il n'y a juste pas assez d'enchantement et pas assez de symboles.
Eh bien voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Sandrine Rousseau qui vient de se qualifier pour la candidature donc avec Yannick Jadot ce week-end. Elle parlait de vous, elle parlait de votre livre précédent. Réenchantons le monde, mais réinventons l'amour. Mona Chollet.
Oui, je pense que après bon, c'est vrai que le mouvement, l'intérêt pour la sorcellerie, l'intérêt pour l'écoféminisme, c'est quelque chose qui dépasse très largement le livre que j'ai écrit là-dessus. Mais je trouve très dommage en fait parce qu'elle se réclame de l'écoféminisme et je trouve très dommage que ce courant soit autant caricaturé. C'est un mouvement réellement passionnant, pas du tout qui prétend pas du tout que les femmes seraient plus proches de la nature que les hommes et blablabla. C'est pas du tout ça le lien, la manière de nouer les deux qui est à la base du mouvement. Il y a un recueil excellent, une anthologie de textes écoféministes qui s'appelle Reclaim, qui est disponible aux éditions Cambourakis. Je le conseille vivement à Léa Salamé, par exemple. Je suis sûre que ça pourra l'intéresser. Et oui, c'est très ambitieux, évidemment, de vu l'état du discours politique aujourd'hui, de porter ce genre d'idées sur la place publique. C'est extrêmement audacieux, je crois.
Ben, merci infiniment, Mona Chollet, pour votre livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte et qui s'intitule « Réinventer l'amour », sous-titre « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ».
Cooking as you cold.
Et c'est avec Big Tiff que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Sybille Clamence, qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Elodie Royer, Iris Vertanessian, ainsi qu'à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mischka Assayas pour le début de sa nouvelle semaine de Very Good Trip.